Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Dans nos lectures en liberté, nous revoici donc pour la suite du roman de Christian Gailly, Un soir au club. Elle aussi s'imaginait responsable de la mort de Suzanne. Je parle de débit. À vrai dire, sans raison. On en trouve toujours. Elle en trouvait. Je lui ai pris son mari, se disait-elle. Mais non. Tu ne lui as pas volé Simon, lui disais-je. Tu l'as remplacé auprès de lui. Des choses de ce genre, j'étais loin de la convaincre. Elle seule savait ce qu'elle devait se reprocher. On est toujours seul à savoir. On a parlé de ça bien plus tard. Elle était venue avec Simon passer le week-end chez moi à la campagne. On s'est trouvé seul un moment. Simon, après le déjeuner, était parti faire un tour dans le parc avec Jeanne, ma femme. Débit et moi, on avait repris du café sous le grand parasol dans la cour ensoleillée. Elle me disait qu'une fois rentrée chez elle, une fois rentrée chez moi, dit-elle, à l'idée de Simon dormant seul dans cette chambre d'hôtel, je n'arrivais pas à fermer l'œil. Je l'aimais déjà, me dit-elle. Elle est charmante, ai-je pensé, Simon a de la veine. Elle ajouta, je voulais le retenir au moins quelques jours pour l'empêcher de repartir, le convaincre de rester, lui dire ce que plus personne ne lui disait, que sa vie, c'était la musique, le piano, jouer et non pas, enfin bref. Je le voulais près de moi. Je me reprochais de ne l'avoir pas traîné chez moi. J'aurais dû insister. Il en avait envie, je le sais d'ailleurs, il me l'a dit. Alors, pour m'assommer, j'ai continué à boire toute seule en pensant à lui, et finalement, je me suis endormie. Suzanne y parvint, mais sans boire, simplement épuisée, quand le matin est revenu, sa lumière qui apaise, matinale, début juin. Simon dormit mal, peu, plusieurs épisodes d'une heure ou deux. Le tout le conduisit vers 10 heures. Il avait faim. La faim, il la ressentait. L'heure n'en avait aucune idée. S'en soucia au moment de se laver. Il se dirigeait vers la salle de bain. Se frottant la joue, il pensa rasoir. Se passant la langue sur les dents, il pensa brosse. N'avait ni l'un ni l'autre. Début de mauvaise humeur, sale goût dans la bouche. Juste un échantillon de dentifrice et une dose de gel douche. Quelle plaie. Un miroir ? Ah, ça oui, un très grand, et qui faisait son travail de miroir. Simon pressa le ridicule tube. Un peu de pâte sur le bout de son doigt, se frotta les dents avec ça. C'est mieux que rien, pensa-t-il. La menthe stimula son estomac. « J'ai faim, » pensa-t-il. « Bon, maintenant, je vais me doucher. » On se parle le matin. D'habitude, la première chose qu'il fait avant d'entrer dans le bain, chez lui à Paris, il prend des bains. Que là, ce soit une douche, ne change rien. Douche ou bain, il ôtait ses lunettes et sa montre. Ses lunettes n'étaient pas sur son nez, normal. Il les ôte toujours pour dormir. Sa montre n'était pas à son poignet, pas normal. Il ne l'ôte jamais pour dormir. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Sûrement sur la table de chevet. Ne se souvenait pas l'y avoir posé. Allons voir tout de même, la montre s'y trouvait. Sans doute débit, pensa-t-il. Elle a dû m'ôter ma montre. C'est exact. Et sous la montre, elle avait laissé un petit mot disant ceci. S'il fait beau, demain matin, coup d'œil par la fenêtre, il faisait beau. J'irai à la plage. Venez m'y rejoindre si le cœur vous en dit. Coup d'œil à son cœur, pas très chaud. Son estomac, par contre, criait famine. On verra ça quand j'aurai mangé, pensa-t-il. Déby ajoutait dans un post-scriptum plus long que le mot lui-même. Je me mets toujours sur la droite, dans un coin tranquille, derrière la troisième digue, à partir de la baraque du loueur de planches. Simon se doucha, s'habilla, descendit. Vous pouvez me rendre un service, dit-il au garçon de la réception. Simon tendait la clé sans intention de la donner. Qu'il la lâche semblait dépendre de la réponse du garçon, qui tenait la clé par l'autre extrémité. « Bien sûr, monsieur, dit le garçon. Pas le même que cette nuit. De quoi s'agit-il ? » Simon lâcha la clé. Le garçon l'accrocha au tableau, puis fit face de nouveau. « Je vous écoute, dit-il. » Je voudrais, dit Simon, que vous vous renseigniez, il accentua le nier, sur l'horaire du prochain train pour Paris, fin de matinée ou début d'après-midi, comme vous voudrez. Je vais prendre mon petit déjeuner, je serai dans la salle à manger. À propos, elle est où la salle à manger ? Tout de suite à votre gauche, dit le garçon, mais à cette heure-ci, 10h30, on ne sert plus. Il y avait juste un attardé au fond, un client. Il finissait de lire son journal. Simon s'approcha de lui, demanda s'il pouvait encore espérer être servi. Un quotidien allemand, le journal, qui, une fois baissé, révéla la moue d'un homme qui, à Simon, répondit « Allez voir à la cuisine ». Par ses appels, Simon obtint qu'une jeune fille se présente au guichet, puis obtint d'elle qu'elle lui prépare un thé complet. « Je vous apporte ça, dit-elle. Je me mets là, dit Simon. » La table, choisie au hasard, tournait le dos à l'Allemand. N'y voir aucune rancune de guerre, Simon détestait qu'on le regarde manger. Surtout quand on meurt de faim. Adieu les bonnes manières, il sentait qu'il allait se goinfrer. D'autant plus qu'il avait repéré au centre de la salle, pas encore débarrassé, une grande desserte ronde, avec dessus tout plein de boulangeries fraîches. Il dévorait son troisième croissant. La jeune fille lui apporta son thé. La bouche pleine, il la remercia, puis s'en versa une grande tasse sans laisser infuser. « La prochaine sera meilleure, » pensa-t-il. Tout ça avait un certain goût de liberté. Tout ça, c'est-à-dire être ailleurs, dans une autre odeur, à une autre heure, dans un lieu nouveau qui occupe les yeux. Les fenêtres n'ont pas le même ciel, le thé la même saveur, se gaver de croissant au beurre, se dire ça faisait longtemps, se sentir content. Le garçon de la réception lui apporta son renseignement. « J'ai votre renseignement, dit-il. » Un peu tête-à-claque, mais gentil, comme tout, il relisait ses notes. Se relisant, il se demanda si Simon pourrait le relire. Dut se répondre non car il eut un geste d'hésitation, puis garda pour lui la feuille de bloc que Simon, la main tendue, s'apprêtait à saisir. « J'écris mal, » dit le garçon. « C'est la science des ânes, » dit Simon. « Non, » dit le garçon, « c'est l'orthographe. »« Bon, » dit Simon, « je vous écoute. » « Et la graphologie ?» se demanda-t-il, tandis qu'à haute voix, le garçon relisait ses notes. « Vous voulez répéter ?» dit Simon, « je n'écoutais pas. » Cela fit sourire le jeune homme qui, gentiment, répéta le début. Départ 10h12. Il arrive à Paris à 13h05, mais celui-là est déjà parti. Ce fut le tour de Simon de sourire. « Après, vous avez 13h21, dit le garçon, et vous arrivez à 15h47. »«
Ah bon ?» dit Simon, étonné que le second soit plus rapide. « Vous êtes sûr ?»«
Oui, dit le garçon, ou alors carrément le 15h23, qui vous met à Paris à 18h07. »
Simon aurait détesté revoir Paris à 18h07. On a ses heures noires.
Simon, c'était 6h du soir.
Bon, dit-il, je vais voir, merci. C'est gentil. Vous me laissez le papier ?
Le papier du garçon rencontra celui de débit dans la poche de Simon.
À propos, dit-il, rappelant le jeune homme, elle est où, la baraque du loueur de planches ?
« Sur la plage, dit le jeune homme.
Je m'en doute, dit Simon, mais où exactement ?
Là, juste en face, dit le garçon, vous traversez la route du front de mer, vous prenez le premier escalier sur votre droite, vous descendez sur la plage, la baraque est juste là. Mais d'une part, la mer est basse, et d'autre part, il n'y a pas un gramme de vent.
Tant pis, dit Simon. Merci quand même pour le train.
« De rien, monsieur, dit le garçon. Il se retira.
Simon le revit un peu plus tard quand il voulut payer sa note avant d'aller respirer. Débit avait déjà réglé.
« Quand ça ? Dit Simon.
« Ce matin, tout à l'heure, vers 10h, dit le garçon.
Simon quitta l'hôtel.
Thank you.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Après cette pause musicale, nous revenons donc au roman de Christian Gailly, Un soir au club. Le 13h21 lui laissait le temps de faire un tour sur la plage, de voir Debbie, s'il la trouvait, si elle-même s'y trouvait. S'il fait beau, avait-elle dit, mais on ne sait jamais. Et puis aussi prévenir Suzanne, ah oui, ne pas oublier d'appeler Suzanne, pensa-t-il en sortant de l'hôtel. Qu'est-ce qui nous frappe dès nos premiers pas du matin, même si celui-ci touche à sa fin dans une rue qui mène à la mer ? La légèreté de l'air. Bien sûr, ça n'est qu'une impression. L'air n'y est pas plus léger qu'ailleurs. C'est davantage une affaire d'odeur ou de lumière, certainement de fraîcheur, même sous le soleil de 11 heures. L'encore humide, fraîcheur de l'air. Et puis bien sûr, le ciel, là où la mer fait sa liaison, l'absence de tout obstacle à l'horizon. Au-dessus, quand même, et cheminant vers l'ouest, une petite caravane de nuages. Qu'une impression, donc. Mais une impression n'est possible que sur un cœur qui aspire à l'être impressionné. Il faut pour ça se sentir léger. Simon se sentait léger. Il avait trop mangé, 5 croissants au beurre, mais se sentait le cœur léger. Plein de choses agréables lui arrivaient, qui ne lui étaient pas arrivées depuis très longtemps. Jouer du piano, boire de l'alcool, dormir à l'hôtel, sortir pas rasé à 11 heures, un jour de juin, être à la mer, la voir, être aimé par un tas de gens, comme hier soir, être aimé tout court, être amoureux et le croire, bref. Il avait rendez-vous. Pense à appeler Suzanne, se dit-il, histoire de ne pas se sentir tout à fait heureux. Ce serait dommage de ne pas se sentir un peu coupable. Mais ça ne fait rien. Elle n'en saura rien, pensa-t-il un peu lâche, un peu honteux. Juste ce qu'il faut, et il fait beau. Alors ? Alors rien. La mer était loin. Pas un gramme de vent. Un tas de jeunes vautrés autour de la baraque du loueur. Simon, en tenue de ville, dépassa tout ça, se demandant si ces jeunes gens n'avaient rien de mieux à faire que d'attendre le vent en tenue de planchiste roulé sur la taille, rien de mieux à faire que d'attendre la mer. Puis, se souvenant qu'en juin, on n'a plus cours, il pensa aux études de son fils. Pas glorieuse spécialement, mais victorieuse finalement. C'est bien, pensa-t-il, car moi-même je ne suis pas un aigle. Sa mère, par contre, est intelligente et courageuse, comme lui. Pense à l'appeler, se dit-il. Et puis cesse de penser, tu vas tout gâcher. Aucun danger. La mère est là. Elle est toujours là. On peut s'absenter, même très longtemps, on revient, elle est là. Tu m'attendais, dit-il. Eh ben, viens, au lieu de rester là-bas toute seule. Imbécile, tu ne me vois pas, pourtant je suis là. Il se retint d'agiter les bras comme quand il était petit. Il criait « Ouh, ouh, la mère, je suis revenu, je suis là !» Debout, sur la dureté du sable humide, veste ouverte, mains dans les poches, les yeux, puis tout le visage sous une petite brise qui enfin se levait, Simon était planté devant la mer. Il avait commencé par lui parler. Il faisait toujours ça quand il la retrouvait. Il la tutoyait, ça fouettait de l'émotion. L'émotion était venue, mais pas aussi forte qu'attendue. Plutôt que prévu, il s'était lassé de la regarder. Sans doute parce que basse, loin. Sans doute parce que vieux, fatigué. Il décida de marcher. Sur la droite, c'est bien ça. Il relut le papier. Se demanda si Debbie était là. Si elle était venue, si elle serait encore là. Vaudrait mieux pas, se dit-il. Où ça déjà ?
derrière la troisième digue. Il relut le papier, le garda à la main, et comme l'explorateur qui progresse, carte en main, il aperçut la première digue. Il était 11h20. « Elle est loin, » pensa-t-il. « Un coin tranquille, » dit-elle. « Je comprends pourquoi. » Personne n'a le courage de marcher jusque-là. Moi, si, mais moi, enfin bref, il rangea le papier de débit, rencontra celui des horaires. De nouveau le consulta. 13h21, relut-il. Si mon passage est 2 heures devant moi, plus qu'il n'en faut, trop peu et trop, il ne se passera rien. On parle un peu, j'appelle Suzanne, je commande un taxi, je saute dans le train, merci beaucoup, j'ai passé une excellente soirée. Derrière la troisième digue, il ne trouva personne. Simon pensa s'être trompé. Il recompta les digues. Perché sur le plus haut rocher, la main au creux des yeux, subjugué d'avoir parcouru semblable distance cette longue bande d'écume courbe. Le vent frais qui venait de la mer glaçait une légère sueur en s'engouffrant sous les pans de sa veste, lui causant une curieuse sensation hésitante entre chaud et froid, léger frisson, légère chaleur. Simon se réfugia derrière la digue et, à l'abri du vent, sous le soleil exactement, il ôta sa veste, l'étendit sur le sable humide, puis posa ses fesses sur sa veste. Ensuite, il retroussa ses manches et, se tenant les genoux, il contempla la mer. Il eut rapidement droit au célèbre sentiment d'éternité, suivi en toute logique d'un désir de mort. On lui banda les yeux. Deux mains fraîches lui demandaient comment il préférait mourir, sans savoir ou en sachant. L'imbécile préférait savoir. Il se désaveugla et, gardant les mains dans les siennes, les noua autour de son cou, ou plutôt les bras, des bras fins, qui allaient avec les mains, fraîches dans les siennes, puis tira sur les bras et sentit dans son dos le buste de la femme, puis entendit sa voix. « J'ai quelque chose pour vous, » dit Déby. « Ah bon ?» dit Simon. Assis, il ôta ses chaussures et ses chaussettes. Ensuite, il retroussa son pantalon. « On est bien, » pensa-t-il, « il fait bon. » Déby dit « Je vous ai apporté ça. » Simon se retourna. Elle était debout derrière lui. D'une main, elle tenait son sac ouvert, de l'autre, elle lui tendait l'étui. Simon était toujours assis, se dévissant la tête pour voir ce que montrait Déby. Il se leva. « Qu'est-ce que c'est ? » dit-il. Le soleil dans les yeux. « Ouvrez-le, » dit Déby, « vous verrez bien. » L'étui dans les mains, modèle réduit d'une boîte de saxophone ténor, Simon s'en désintéressa. Il regardait Déby. « J'ai envie de vous embrasser, » dit-il. Elle rit. Cette façon enfantine d'annoncer ses envies amuse toujours les femmes. Quand elle riait, on voyait ses petites dents de devant, elle était très mignonne. « J'ai envié Simon, souvent. »« Je me fous de cet étui et plus encore de ce qu'il y a dedans, » dit-il, s'emballant un peu. « Ce que je veux, c'est vous embrasser. » Il n'avait qu'à le faire au lieu de demander. Un refus vaut mieux que de ne pas essayer. « Pas avant que vous soyez rasé, » dit Déby. « Ah, c'est ça, » dit Simon. Il ouvrit l'étui. Un rasoir, donc. Fallait pas, dit-il, vous êtes folle. Vous n'auriez pas dû, à quoi ça rime? Et puis, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un rasoir électrique sur la plage? Il est à pile, dit Déby. Bon, allez, assez discuté, dit-elle, rasez-vous, et pendant ce temps-là, moi, je me mets de la crème.
Qui dit crème dit peau. Qui dit peau à bronzer dit peau dénudée. Qui dit peau dénudée dit vêtements ôtés. Se rasant, Simon n'osait pas regarder. Faut que j'appelle Suzanne, pensa-t-il. Le rasoir gazouillait, ne rasait rien du tout, mais gazouillait. Se frottant la première joue, il en était toujours à la première joue, Simon se demanda s'il était souhaitable d'insister avec cet engin qui ne rasait rien du tout. « Tout ce que je vais gagner, pensa-t-il, c'est de me démolir la joue. »« Elle m'a refilé un truc à elle, pensa-t-il, le truc qu'elle utilise pour se raser les jambes. » »« Oh Seigneur, comme je n'aimerais pas que ses jambes piquent. Maintenant, voyons, elle doit se faire épiler. » »« Enfin bref, insiste, insiste, se disait-il. » Car malgré tout, à force d'insister, ça rasait quand même un peu. « Dites-moi, » dit-il sans la regarder se déshabiller, « si je n'arrive pas à me raser avec cette saloperie, vous m'embrasserez quand même ?» Le parfum de la crème solaire. Il pensa qu'il pouvait regarder.
Nous avons terminé pour ce soir, donc, la lecture de ce roman de Christian Gailly, Un soir au club. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.